Solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde, et aussi sur www.libradio.org. Toutes et tous ensemble, nous combattons le coronavirus. Oh, non.
Alors, nous sommes le vendredi 20 mars. Bonjour Amanda.
Salut William.
Comment vas-tu ?
On est bien et toi ?
Mais écoute, ça va également. Alors voilà, nous allons parler du collectif, de l'association dans laquelle tu travailles, mais je vais peut-être te laisser te présenter un peu plus en avant toi. Qu'est-ce que tu y fais ? L'association, c'est Solidarité sans frontières. Le site internet, c'est www.sosf.ch. Alors, si tu veux bien, présente-toi un petit peu à l'aune de l'association. Et puis ensuite, tu diras également quelques mots de l'association, si tu veux bien.
Ben, volontiers. Alors, moi, je suis secrétaire générale de Solidarité sans frontières. Donc, on est une équipe de salariés de 3 personnes, plus parfois un ou une stagiaire. Donc le secrétaire général, c'est mon travail, c'est un peu gérer l'association au quotidien, rédiger les prises de position, organiser des campagnes, etc. Mmh. J'ai une collègue qui s'occupe de l'administration et puis un collègue qui s'occupe de tout ce qui est documentation et archives. Donc on a aussi une grande archive à Berne. Avec 35 ans d'histoire du mouvement d'asile en Suisse.
D'accord.
Et donc Solidarité sans frontières, c'est une association de défense du droit d'asile qui existe depuis plus de 30 ans donc en Suisse. Et puis de défense en général des droits des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Et voilà, on se rend compte aujourd'hui dans une époque de crise comme on vit actuellement que c'est très important. De ce genre d'organisation pour quand même soulever des problématiques qui sont en train de passer complètement inaperçues.
Et d'ailleurs, vous lancez un appel aux autorités fédérales et cantonales et à tous les organismes publics dont le nom est Virus Corona, des mesures de protection pour tous. Mais si tu es d'accord, avant que l'on en parle, qu'on entre dans le vif du sujet, j'aurais encore voulu peut-être te poser une petite question sur ta trajectoire. Hein, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu te retrouves, parce que c'est pas anodin de se retrouver à ce poste-là. Alors quelle est ta trajectoire? Qu'est-ce qui t'a mené à ce travail, à cet engagement qui est un travail, mais également, avant tout, j'imagine, un engagement pour toi. Premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est de quoi est faite, lorsque l'on fait ce type de travail-là, de quoi est faite ta journée, tes journées ?
Alors, ma trajectoire politique, elle commence très tôt, puisque j'étais à ma première manif quand j'avais 11 ans. 11 ans, 12 ans, c'était en 2003, une manif qui avait organisé les enfants de mon école contre l'intervention des États-Unis en Irak. Donc ça c'était un peu le premier acte politique que j'ai fait. Puis ensuite je me suis engagée depuis l'âge de 16 ans au sein du POP, Parti Ouvrier Populaire. Et puis voilà, ensuite c'est là que j'ai quand même disons acquis plus d'expérience en termes de campagne, d'organisation politique, etc. Et puis ben après j'ai fait des études en sciences économiques et en histoire et je m'intéressais pas mal à la question des migrations. Je me suis retrouvée à coordonner le comité de campagne contre les mesures urgentes dans le domaine de l'asile. C'était un référendum qui a eu en 2013. Des durcissements de la loi sur l'asile. Et puis, ben, suite à ça, il y avait ce poste qui s'était libéré chez Solidarité sans frontières. Et puis, j'ai été prise. Et j'avais 24 ans à ce moment-là. Donc, j'étais très jeune pour être dans un poste comme ça. Ils m'ont fait confiance. Je leur en suis très reconnaissant. Et ouais, j'ai énormément appris dans le cadre de ce travail. Maintenant, de quoi sont faites nos journées? Alors c'est rigolo parce que du coup maintenant ça fait une semaine que je travaille entièrement à la maison et ça marche très bien parce qu'on a un travail qui est tout à fait adaptable en termes de lieu ou comme ça. En plus on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin on avait déjà tout qui était installé en termes qui nous laissait toutes les possibilités de travailler depuis loin parce que je suis beaucoup en déplacement aussi en temps normal. Donc voilà, donc moi je suis beaucoup sur mon ordinateur. C'est pas forcément un boulot qui est toujours très sexy, hein, parce que on doit lire vraiment, on doit vraiment se maintenir au courant de l'actualité, lire tout ce qui se passe, s'informer, savoir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Nous, on n'est pas sur le terrain, nous, on est vraiment dans un bureau à Berne. Et puis, ben, on doit être en contact permanent avec les organisations de base qui sont au contact des requérants d'asile, des personnes migrantes, pour savoir quels sont les besoins, quels sont les problèmes, comment faire remonter ça de manière politique au niveau national. Coordonner un peu tout ce monde dans la mesure du possible et puis après ben voilà on rédige des articles, on prend des positions, on fait beaucoup de téléphones, il y a beaucoup d'emails et beaucoup de rédaction, voilà. C'est un peu ça nos journées.
D'accord, donc c'est, on peut le dire, quand même un travail de fourmi et un travail de l'ombre également.
Oui, après, il y a toute la partie communication et travail avec les médias, parce que le but, c'est de réussir à rendre nos idées audibles pour l'ensemble des gens, quoi. Notre but, c'est pas du tout d'être dans un petit cercle fermé. On essaie vraiment de communiquer autant que possible, pour avancer sur le terrain de la lutte des idées aussi. Donc, c'est pas toujours un travail de l'ombre. On organise aussi beaucoup d'événements publics, on organise des manifs. Des conférences, des remises de pétitions, enfin voilà, il y a tout un travail comme ça aussi très très public, mais effectivement c'est pas toujours funky, quoi. Ouais. c'est aussi beaucoup de travail de l'ombre et puis de fourmi, puis beaucoup essayer de vulgariser les textes, les textes de loi, les textes officiels, etc., pour que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit. En fait, le domaine de l'asile et des migrations, c'est un domaine qui est au niveau juridique tout le temps en train d'évoluer, que ce soit au niveau européen ou au niveau suisse. Et c'est vraiment, il faut vraiment être un peu se spécialiser un peu pour comprendre tout ce langage très technocratique ou des fois très juridique, et puis le rendre compréhensible pour nos membres, nos sympathisants. Mmh.
Est-ce que ce que je sous-entendais également en te posant cette question-là, c'est la chose suivante: est-ce que au bout d'un moment, on est touché par les situations que l'on met à jour ou que l'on est amené à connaître et d'une certaine manière à partager? Est-ce que des fois on n'est pas confronté à une rigueur administrative, une froideur juridique qui fait que, eh bien, moralement, c'est pas si facile?
Bon, moralement, de toute façon, c'est pas facile parce que c'est beaucoup de défaites. En tout cas, c'est beaucoup de luttes qu'on n'arrive pas à. Enfin, voilà, le cadre, on le définit pas, nous, ça c'est clair, donc c'est assez difficile. On est souvent beaucoup en réaction plutôt que dans la capacité de vraiment mettre des choses en place. Après, effectivement, la nature de mon travail fait que je suis pas forcément beaucoup en contact avec les requérants d'asile. Par contre, je suis énormément en contact avec les activistes, les bénévoles, tous les gens solidaires, en fait. Ce qui est hyper enrichissant, d'un côté. Mmh. Et puis, ben, on a quand même aussi des situations où on aide des personnes, hein, des cas individuels, mais c'est pas notre principale tâche, mais on le fait des fois quand même pour des personnes qui ont vraiment été tapées à toutes les portes et puis il y a personne qui a pu les aider. Et ça, pour moi, enfin, moi, je trouve ça super dur, en fait. Je trouve ça super dur parce que c'est vraiment, en fait, c'est de devoir des fois aussi expliquer à des gens, on aimerait bien vous aider, mais en fait, le système est fait de telle manière que c'est impossible d'arriver à faire ce que vous voulez faire. Votre projet de vie, il est pas réalisable. Donc, on va pouvoir essayer de trouver un petit truc pour que ça aille mieux de ce côté-là. Tout souvent, là, la personne, elle est dans un système tellement, enfin, qui l'empêche vraiment de réaliser ses rêves. Donc ça, c'est assez difficile. Voilà. Après, moi, je trouve que tout ce rythme de campagne politique, c'est quelque chose d'assez stimulant. Au niveau individuel, je me sens pas. Parfois, je me sens fatiguée. Ça, oui, parce que c'est un énorme boulot. Mais il y a quand même cet enthousiasme toujours, et puis cette colère face à des situations qui sont inacceptables, et puis qui sont. Ça, c'est vraiment un moteur.
Ouais. Et alors pourquoi Solidarité sans frontières et pas autre chose? Est-ce que voilà cette problématique des personnes migrantes, des personnes en exil te touchait en particulier?
Je pense aujourd'hui on est un peu tous de près ou de loin touchés par cette situation. Après, jamais il y a eu autant de personnes en fuite depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une réalité. Puis alors après moi c'est pas pour moi la migration c'est pas comment dire, c'est vrai que je me prononce surtout sur cette question parce que c'est mon travail, puis c'est là que c'est ce que je connais le mieux, c'est quelque chose que je connais bien, mais pour moi, ça fait partie d'un tout. À mon avis, on ne va pas réussir à progresser uniquement sur le terrain de la politique migratoire, parce que ça doit vraiment être lié à un programme politique plus large, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un peu le domaine voilà qui permet à la droite de capitaliser à fond, de monter les gens les uns contre les autres selon leur nationalité, etc. Et je pense que c'est vraiment en faisant le lien avec d'autres sujets, puis surtout en étant offensif sur les questions sociales, économiques, que on arrivera à terme à progresser aussi en termes de politique d'asile. Mais juste l'asile, juste la migration tout seul, non, pour moi ça fait pas de sens.
Ouais, je comprends bien. Il y a là derrière également des enjeux, comme tu le dis, globaux. Il y a des histoires de chantage également. Il y a des questions de réel politique, de politique internationale. C'est vrai que c'est très complexe tout de même comme problématique.
Oui, c'est très complexe. Et je pense qu'on devrait plus rappeler justement les enjeux économiques ou géostratégiques, géopolitiques qu'il y a derrière des périodes de crise migratoire. Parce qu'en fait, en se focalisant uniquement sur l'aspect migration, c'est aussi peut-être une volonté de se focaliser sur les conditions des gens, etc., de la part de certains, plutôt que de dévoiler les enjeux géopolitiques. Je pense par exemple à l'épisode tragique de ce petit garçon qui était retrouvé mort sur une plage en Grèce, que sa photo avait fait le tour des médias. On peut se demander pourquoi à ce moment-là, tout d'un coup, tous les médias qui, le reste du temps, se gênent pas pour colporter les pires clichés racistes, etc. Tout d'un coup, tous les médias ont fait leur une avec ce petit garçon. Ben voilà, on se rend compte qu'au même moment, c'était quand la Grande-Bretagne voulait intervenir au niveau militaire en Syrie. Donc il y avait besoin de créer cette émotion chez les gens pour légitimer aussi l'intervention de la Grande-Bretagne là-bas. Alors je le dis pas du tout avec dans une optique de théorie du complot, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que si on montre les enjeux qu'il y a derrière, on comprend aussi mieux où on pourrait agir pour que ces situations se produisent plus. Parce que ces personnes, ces images qu'on voit, ces horreurs qu'on voit aux frontières, c'est le résultat d'une situation au niveau mondial qui est dramatique, avec des inégalités énormes entre les États, avec un petit groupe d'États occidentaux qui se permettent de s'ingérer partout, de défendre partout les intérêts de leur multinationale, puis de détruire des pays, quoi. Donc c'est le résultat de ça, et c'est tout ce système qu'on doit dénoncer, puis qui doit changer, parce que si on défend comme nous on le fait, le droit de rester, le droit de circuler, on défend aussi aussi la liberté de rester chez soi pour ceux qui le souhaitent, parce qu'actuellement on est face à des migrations forcées, et c'est, je pense que c'est toujours important de le rappeler. On est un peu en train de nos revendications en termes d'accueil des réfugiés, etc., elles sont super importantes, mais c'est un peu des pansements par rapport au cœur du problème. Et ça, je pense que c'est toujours important de le rappeler. Voilà.
Ouais, ouais. Et puis, tu as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est l'instrumentalisation qui peut en être faite. Et alors, selon toi, puis ensuite, nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet concernant la situation qui est, évidemment, qui se péjore pour des personnes déjà vulnérables avec le corona, avec le Covid-19. Ouais. J'aurais encore voulu te questionner sur, qu'en est-il, depuis ta position, des populations locales, des populations que tu fréquentes ici en Suisse? Est-ce que, justement, on sent qu'il y a une acuité supérieure, une acuité qui arrive pour justement comprendre ces enjeux-là, pour ne pas se laisser instrumentaliser et pour bien comprendre qu'une migration, c'est, pour la majorité des cas, des migrations forcées?
Tu veux dire d'une manière générale?
Oui.
Non, de manière générale, j'ai l'impression que que on est dans une. Enfin, je pense que c'est beaucoup lié au système médiatique aussi, comme il fonctionne actuellement. Mais je pense que dans la population, il y a beaucoup de colère en ce moment, qui est liée au fait qu'on est dans une phase économiquement et socialement de régression totale. Sur ces 20-30 dernières années, et les gens voient leur mode de vie menacé, ils voient leur niveau de vie menacé, ils voient leur travail, leur poste de travail menacé, et puis voilà, il y a cette colère, et puis qui est vraiment dirigée par les partis de droite, mais même on pourrait dire les partis établis, vers le bouc émissaire des migrants, quoi. Donc dans ce contexte-là, avec des médias qui jouent, enfin voilà, qui jouent beaucoup sur l'émotionnel, qui dramatisent des choses, qui véhiculent aussi des préjugés sur les personnes étrangères, et puis qui occultent toujours justement l'aspect, qui occultent les intérêts, qui occultent les questions stratégiques, etc. Puis, du coup, dans ce contexte-là, moi, j'ai l'impression, non, effectivement, les gens sont assez mal informés sur les mécanismes, sur les intérêts, sur le pourquoi, en fait, des migrations. Après, ce que je vois aussi, c'est énormément de solidarité chez certaines personnes. Ça, c'est important de le dire quand même. Il y a énormément de gens qui s'engagent pour les personnes migrantes à plein de niveaux. Hein. Ça peut être au niveau politique. Ça peut être aussi, comme je disais avant, des bénévoles qui font un énorme boulot, hein, que ce soit pour donner des cours de français, que ce soit pour aider des gens à tous les niveaux, en fait. C'est assez beau à voir quand même. Mais non, d'une manière générale, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience plus globale. Dans ce cas bien précis, j'ai plutôt l'impression que les gens se sentent, beaucoup de gens se sentent de plus en plus envahis, en fait, par les réfugiés.
Ouais. Mais donc, selon toi, il reste quand même beaucoup à faire, et notamment pour les populations, à qu'elles s'informent d'elles-mêmes, mais également de leur apporter des informations-là, et eh bien, notamment pour s'informer, eh bien, on peut justement se servir du site www.sosf.ch, le site de Solidarité sans frontières.